Alors, faut que je lise, oui. C'est ça ? Corvée de sexe. Ben, je ne sais pas que le sexe n'est pas forcément quelque chose de forcément très agréable. Corvée, quand on fait une corvée, ben, c'est quelque chose qu'on fait par devoir ou par... pas par envie, en tout cas.
Bonjour à toutes et à tous, ceux d'entre vous qui nous écoutent en direct, mais ceux aussi qui écoutent notre rediffusion quotidienne à minuit. La grande différence, c'est que ceux qui nous écoutent à 16h sont généralement habillés, alors que si vous nous écoutez entre minuit et 2h du matin, vous êtes plus probablement en slip, voire intégralement nu. Fatalement, bercé par le son d'une voix aussi sexy que la mienne, les idées vous viennent, surtout si vous êtes deux dans ce lit. Il vous devient alors difficile, voire impossible, de vous concentrer sur le gai savoir. Une seule envie, obsédante, monte progressivement en vous. Et ça, c'est que sur mon intro, car quand vient le doux sasseur de Cyril Lacarrière, avec sa voix de doubleur de films porno des années 90, c'est un véritable tsunami hormonal qui s'abat sur vous. Et vous n'avez d'autre choix que de vous jeter sur votre conjoint pour lui faire l'amour sauvagement, comme Pierre Courade à son mari quand il rentre bourré du cornichon après avoir croisé Théo de Lobadère, ce technicien au regard ténébreux. Dans ces cas-là, oui. Dans ces cas-là, faites quand même attention. Faites quand même attention à une chose. Vérifiez toujours que votre partenaire est sur la même longueur d'onde. Parce que le problème, c'est que toutes les émissions radio ne sont pas aussi excitantes que Zoom Zoom Zen. Prenons au hasard les grosses têtes. Et bien, si votre partenaire, lui, dans le lit, est en train d'écouter le replay de l'émission où Bernard Mabille fait des blagues sur son ongle incarné, il se peut que votre envie de sexe ne trouve aucun écho de son côté et qu'il vous réponde, comme Cyril, quand Laetitia Casta, n'y tenant plus après tous ses appels du pied, finit par lui dire qu'elle veut son corps.
Fais-moi l'amour.
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi ?
Pas envie.
Oui, aujourd'hui, on va zoomer sur ce qu'on appelle la corvée de sexe. Ces femmes, car c'est majoritairement des femmes, qui se forcent à avoir un rapport sexuel pour faire plaisir à leur conjoint, alors qu'elles n'en ont pas vraiment envie. Pourquoi le font-elles ? Comment sont-elles encore conditionnées à le faire en 2025 ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Maëlys Casté.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Merci. Cet après-midi, vous êtes sexologue, et je le précise pour Quentin, vous êtes aussi maîtresse BDSM. Parce que Quentin, je sais que tout ça vous intéresse, vous êtes quelqu'un de très ouvert d'esprit. Vous venez de sortir un livre extrêmement important pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, Corvée de sexe, pourquoi les femmes se forcent encore. C'est chez Albin Michel, un livre dans lequel vous nous livrez des témoignages de femmes de tous les âges, de tous les milieux aussi, qui viennent vous voir dans votre cabinet et qui vous disent se forcer à avoir des rapports sexuels avec leur mari ou leur compagnon. Pourquoi en 2025 les femmes se forcent encore et surtout pourquoi c'est pas normal ? C'est ce que vous allez nous expliquer durant cette heure ensemble. Juste le temps de vous présenter deux journalistes à la vie sexuelle extrêmement riche et c'est normal. Ils n'ont encore ni enfant ni prêt immobilier sur le dos, les petits salopios. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour à
tous. C'est vrai que c'est l'esprit libre qu'on aborde la vie, nous, c'est
oui,
sûr.
Oui, bon, ça va, ça suffit.
La musique à Alice Whisper marche mieux que votre voix hein, pour
c'est-à-dire
une nuit torride.
Bah vous mettez les deux ensemble et c'est jackpot.
Vous êtes en train de dire que le patron est une bonne merde ?
À vos côtés, Maëlys, si on se base sur ses récentes déclarations, on va dire qu'il y a peu de chances qu'elle vous consulte un jour. Je rappelle sa phrase déjà culte prononcée lors d'un déj d'équipe la semaine dernière. Moi, j'ai que des copains gays, les hétéros, je me les suis tous tapés.
Oh, arrêtez avec ça !
Manon,
ça n'a pas été dit.
C'est une vraie histoire.
Et c'était il y a très longtemps, je vous rappelle que j'ai un amoureux que j'aime.
Mais bien sûr. Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Une série espagnole sortie cet été sur Arte, elle met en scène une femme qui quitte son mari car elle l'accuse de viols conjugaux qui ont perduré pendant des années, de viols conjugaux d'ailleurs, c'est peut-être mieux de cette façon. La chambre parentale, lieu de la zone grise et des questionnements.
Face à vous, Maëlys, c'est un journaliste qui ne prend aucun sujet à la légère. Néanmoins, il a redoublé de zèle aujourd'hui pour mieux saisir cette notion de corvée de sexe, même si son historique de navigation démontrerait qu'il s'est un peu éparpillé, puisqu'il a finalement peu cliqué sur les onglets thérapie de couple de votre site. Il a passé beaucoup de temps à essayer de se connecter via un VPN à un OnlyFans Maëlys Casté BDSM, en vain. Puisqu'hélas, vous n'acceptez pas les paiements en cash.
Quentin, c'est une des raisons pour lesquelles
évidemment, vous avez été bloqué. Quentin, pour oublier la frustration, vous êtes donc allé dans la rue, confronter les passants à notre notion du jour.
Et parler de sexe dans la rue avec des inconnus, c'est toujours une aventure. Essayez, vous allez voir que le fait de se forcer, c'est plutôt commun, des hommes, des femmes, complètement à la rue. C'est dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous jouerons avec le sexe, qui est toujours agréable.
Mais ça
peut aussi être dangereux, comme vous le découvrirez dans un quiz dédié aux risques encourus pendant l'acte d'amour. L'occasion de vérifier le célèbre dicton du journaliste de France 3 Île-de-France qui avait fait un reportage sur nous.
Le direct, c'est sans filet.
Sans filet,
c'est excitant, mais c'est aussi risqué.
Juste avant 17h, nous recevrons un autre sexologue qui distille des conseils très différents des vôtres, Maïlys, et c'est normal puisque c'est un gros mascu. Nouveau personnage en vue pour Lisa Perriot. Après 17h, restez avec nous, on va rire avec un représentant de l'ARCOM qui nous dira combien d'amendes on va prendre pour notre émission sur Strava hier. Accessoirement, on parlera protection des mineurs en ligne. Un rapport est présenté aujourd'hui même. On en aura les conclusions en avant-première. Mais d'abord, Maïlys Casté, revenons-en au sexe. Quand on dit qu'une femme se force à avoir un rapport sexuel avec son conjoint, il y a ce mot se forcer qui est très fort et qui nous renvoie à un autre mot dont on parle beaucoup actuellement, c'est le consentement. Est-ce que ça veut dire que le consentement n'est simplement pas là en fait ?
C'est le cœur de la question. C'est justement la question de la zone grise. Mmh. Et c'est pour ça que nous, les féministes, on dit que le consentement devrait être enthousiaste. Parce qu'en fait, consentir ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut, il y a tout un tas de trucs auxquels on consent, même au travail, etc. Mmh. Ce qui ne veut pas du tout dire
qu'on en a vraiment envie.
Mmh. Et c'est pour ça que j'ai choisi le terme « sexe sans envie ». Parce que ça parle justement de cet élan qu'on a ou pas, et qui du coup fait qu'il y a un continuum entre très envie, bof-bof, et craignos. En fait, il y a de la coercition, et en fait, je le fais parce que j'ai intériorisé que c'était plus risqué et plus coûteux de dire non que de dire oui.
Derrière cette notion de corvée de sexe qui pèse essentiellement, on l'aura compris, sur les épaules des femmes, une autre question se pose. Comment maintenir le désir passé un certain âge ? Prenons au hasard le cas de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui est entré dans sa 51e année avec une double hernie discale et ce qu'on qualifiera, pour simplifier, de trouble général et irréversible de la sphère ORL.
Eh bien, ça va mieux.
Oui.
Le dos bof,
les antibiotiques,
je suis en cortisone, donc ça va. Mais...
Chez les Lacarrière, on peine à raviver la flamme. Dernièrement Cyril a tenté les jeux de rôle animaliers.
Là, le chat.
Mais le chat, ça n'a pas très bien marché. Mais si vous parlez pendant mes sons, évidemment, on ne les entend pas. Peut-être, Maïlys, aurez-vous d'autres suggestions plus engageantes que les jeux de rôle à base de chat ? En attendant, Cyril, racontez-nous la corvée de sexe, d'où ça sort ?
Imaginez, et vous n'avez pas envie. Oula. Fatigue, routine, flemme ou simplement pas le désir, mais vous le faites quand même parce que bon, ça se fait. Qu'on ne peut pas dire non tous les soirs, parce qu'il paraît que ça entretient le couple aussi. Bienvenue dans la vie de Mathieu Noël, l'homme pour qui le sexe est une corvée, le homme pour qui le sexe est une corvée. Car on va le voir, cette corvée, elle repose surtout sur les épaules des femmes. Cette notion de corvée de sexe, elle a plusieurs racines. Il y a d'abord les explications sexuelles. Depuis les années 1990, la recherche parle de désaccord de désir. Quand un partenaire accepte un rapport sans en avoir envie, par peur du conflit ou pour préserver l'intimité du couple. Cela n'est pas sans conséquence, puisque se forcer entraîne de la fatigue émotionnelle, de la perte progressive de désir et de la souffrance psychologique.
Et c'est là qu'il faut bien distinguer cette corvée de sexe de la notion de devoir conjugal dont on a déjà parlé dans cette émission.
C'est vrai, mais la notion de corvée de sexe cristallise un héritage, l'injonction faite aux femmes, d'assurer la disponibilité sexuelle, même au prix de leur propre désir. Elle est beaucoup discutée depuis le mouvement MeToo, et heureusement, mais pas partout, et pas par tout le monde. Les injonctions à entretenir le couple pèsent sur les femmes, rarement sur les hommes. Alors, d'où ça sort la corvée de sexe est bien de cet héritage, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Maïlys Casté, on va pas tourner autour du pot, c'est le poids de la tradition patriarcale qui fait que cette corvée de sexe est encore aujourd'hui d'actualité, qu'on en parle.
Tout à fait, avec tout un tas de représentations sexistes qui persistent et qui sont encore présentes, notamment celles des besoins des hommes, qui seraient très impérieux, qui seraient irrépressibles, avec le sous-entendu qui n'est jamais dit mais qui est toujours là, que ce serait aux femmes d'y répondre.
Et puis surtout que les femmes n'auraient pas de besoins, elles, spécifiques, que ce serait plus des envies, on ne s'est pas venu sur Gidou.
Avec une biologisation des différences de désir qui, quelque part, vient renforcer les comportements genrés, puisqu'on part du principe que ce serait naturel que les hommes soient tout le temps portés sur ça. Dans le livre, je dis des machines à ken, parce que c'est vraiment... ça parle aux gens, quoi. C'est vraiment un stéréotype qui est encore très présent.
Vous donnez une statistique, 52% des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie. 52%. Ce chiffre, est-ce qu'il vous a étonné quand vous l'avez découvert ou finalement
Même 57 dans le sondage le plus récent.
Ah oui, ça augmente.
Il ne m'étonne pas dans la mesure où moi, dans mes consultations, le chiffre est plus élevé.
Ah oui. Des femmes de tout âge, tout milieu social.
De tout âge, tout milieu social.
Des jeunes femmes aussi.
Des jeunes femmes aussi, malheureusement.
Mais elles le verbalisent comment ? Qu'est-ce qu'elles expriment ? Elles vous disent juste, j'ai pas envie, je me force ou c'est plus...
Elles viennent jamais en première instance pour ça. Elles viennent, donc je complète ce que vous disiez, qu'il y a aussi de la souffrance physique. Et souvent, quand elles viennent, c'est soit pour ce qu'elles appellent l'absence de libido, qui en fait, d'un point de vue médical, est plutôt appelé trouble du désir, soit pour des symptômes physiques, notamment ce qu'on appelle les dyspareunies, qui sont les douleurs vaginales à la pénétration. Donc en fait, elles viennent pour ça, et souvent ce qu'elles veulent, c'est être réparées pour pouvoir être... à nouveau être fonctionnelles et continuer à faire du sexe.
Pour quelqu'un d'autre, pas pour leur plaisir à elles.
Pas du tout pour leur plaisir à elles, c'est rarement leur demande.
Pardon des bornes, mais qu'est-ce que vous leur dites alors dans ce moment-là?
J'essaye petit à petit de les amener à comprendre ce cercle vicieux qui est qu'en fait, elles demandent quelque chose d'impossible, puisque ce qu'elles veulent, c'est être à nouveau fonctionnelles pour continuer à se forcer, ce qui est la cause de leur souffrance. Enfin, de leurs symptômes, en tout cas.
Donc
ça ne marche pas. Contrairement à ce que certains discours médicaux disent, que l'appétit viendrait en mangeant, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a ce cercle vicieux et que c'est d'abord ça qu'il faut enrayer.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
La sexologue Maëlys Castet est toujours avec nous pour son dernier livre, Corvée de sexe, pourquoi les femmes se forcent encore, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Maëlys, ce qui est étonnant en lisant vos témoignages, en tout cas moi ça m'a étonné, c'est que ces femmes, elles ne viennent pas vous demander des conseils pour en discuter ensuite avec leur mari, trouver une solution, elles viennent pour voir, comme vous le disiez, pour se réparer. Elles estiment qu'elles ont moins de libido et que c'est un problème. C'est tellement intériorisé ce besoin de fournir du sexe aux hommes qu'on n'arrive pas trop à s'en sortir, j'ai l'impression.
Tout le monde leur vend qu'il faudrait en avoir, les féminins, enfin c'est pas pour taper sur eux, mais il y a vraiment ce discours qu'après la révolution sexuelle, il faudrait être sexuellement épanoui, avec des chiffres et des trucs comme ça. Donc elles s'estiment, enfin elles se sentent coupables de pas être à la hauteur, elles ont l'impression qu'il leur manque un truc. Et d'où le forçage, ce que j'appelle l'auto-forçage, parce qu'elles essayent d'être sur le coup.
Et on en discute un peu en antenne, les hommes n'ont absolument pas conscience de cet écart entre du fait que les femmes, parfois, leurs propres femmes se forcent. Est-ce que certains s'en rendent compte?
Il y en a qui viennent en sachant un peu, mais comme elles ne viennent même pas en lisant identifier elles-mêmes, en fait, c'est déjà une partie du travail de leur faire comprendre que le symptôme, qui est soit les douleurs, comme je disais, soit que le fond du problème, c'est le fait qu'elles se forcent. Donc déjà ça, il faut le démêler avec elles, puis faire entrer dans la danse le partenaire qui souvent ne s'en rend pas compte.
Et justement, c'est quoi leur réaction quand elles identifient le problème, je suppose, avec vous, du coup, c'est comment elles réagissent? Elles y croient au départ ou pas du tout?
Il y en a certaines qui sont assez désespérées parce que justement c'est tellement ancré en elles l'idée que si elles ne performent pas ces prestations sexuelles régulièrement puisqu'elles sont convaincues que les besoins de leur partenaire sont physiologiques entre guillemets et qu'il va souffrir, et même parfois c'est ce qu'il leur vend, qu'il va souffrir si elles ne leur vident pas les couilles, c'est ce que m'a dit une patiente, et donc je l'ai appelée Madame Videcouille dans le livre, que ça va être l'enfer. Et souvent, elles ont essayé de dire non et elles ont vécu, il y a eu des conséquences négatives au fait qu'elles disent non. Donc elles ont intériorisé ça et effectivement, elles paniquent. Il y en a un certain nombre qui paniquent.
On avait fait une émission sur le devoir conjugal et il y a un acte juridique qui prend position contre ce devoir conjugal. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré au début de l'année « Tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle. Le consentement au mariage ne saurait emporter un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. » Donc avoir des rapports sexuels avec une personne qui se force, c'est du viol.
C'est compliqué et je suis bien contente de ne pas être juriste parce que je n'ai pas à trancher. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est dès lors que ça a des conséquences sur la santé des femmes, il y a un problème et on va travailler ça avec elles. Mais c'est compliqué, en fait, et la zone grise, elle se déplace. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le consentement, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit enthousiaste. Et le problème, c'est que le script sexuel mainstream, il nous vend un sexe qui n'est pas relationnel, où il n'y a pas de parole. Et donc, en fait, ça convient, entre guillemets, que quelqu'un soit passif, enfin, qu'une femme soit passive et à moitié inerte. Donc, en fait, c'est difficile d'identifier la frontière.
J'aimerais revenir sur ce script sexuel général. Qui le fournit? Il vient d'où, en fait? Comment il se construit? Pourquoi est-ce qu'on a ça comme modèle, comme référence, alors que visiblement, ce n'est pas du tout ça qu'il faudrait avoir en tête?
Très bonne question. Je pense que ça vient d'une période où le sexe était à visée copulatoire, procréative, et donc procréative, je voulais dire. Et donc, en gros, il fallait qu'il y ait une pénétration.
Oui.
Et après, il y a tout un tas de raisons, mais en gros, ça perdure. Je pense que ça vient de là. C'est qu'en fait, à la base, le sexe s'est fait pour procréer et que c'est encore assez récent, finalement, que le sexe soit devenu récréatif, en tout cas, que dans les mentalités, ce soit OK, que ça serve qu'à ça. Et donc, et c'est vrai que ça pose question parce qu'il y a seulement 20% des femmes qui jouissent seulement avec de la pénétration. Donc c'est vrai que la pénétration, qui est le plat principal de chaque coït, ça pose question quand même.
Et pour parler de sexe, quoi de mieux que faire le trottoir ? Quentin, c'est votre métier, probablement le plus beau métier du monde. Vous allez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre notion du jour. Alors, les gens se forcent beaucoup au lit ?
Ma première rencontre, c'est Jérôme. Alors, c'est pas le chanteur, rien à voir avec le chanteur. Lui est bien vivant, il a la quarantaine, actuellement en recherche d'emploi. On discute ensemble du livre de notre invité.
Corvée de sexe, d'accord ? Et vous me demandez quoi, de réagir au...
Oui, exactement, Jérôme, on va réagir. Et alors, il découvre l'objet de votre livre, la surcharge mentale du foyer. Les femmes portent en général l'organisation familiale et se retrouvent moins disponibles pour la sexualité. Il réagit.
Mais j'aimerais rassurer cette dame et aussi tous vos auditeurs, c'est qu'il y a aussi des hommes qui s'occupent de la famille et des enfants. Moi, c'est mon cas depuis quand même pas mal de temps. Donc, la surcharge mentale des femmes, oui, d'accord. Il y a aussi la surcharge mentale des hommes. Je veux dire, il n'y a pas que des obsédés sexuels du côté des hommes. Enfin, je parle de mon expérience, quand vous occupez des gamins, des devoirs, des courses, de la cuisine et tout le machin, c'est peut-être que la première idée, quand l'autre rentre, c'est pas de baiser, quoi. C'est de se dire, ah oui, merde, non, j'en ai plein la tête, là. J'ai autre chose à penser. Donc, je comprends ce qu'elle dit lorsqu'elle dit ça, si vous voulez.
Vous êtes déjà forcé, vous ?
Peut-être une fois ou deux, peut-être. Une fois ou deux,
ça
mais
va
pas plus.
Oui.
Ça va, une fois ou deux sur une vie,
bonne
ça
stat,
va.
Bonne stat. Je fais lire à Jérôme la première phrase de votre livre, Maëlys Casté.
Madame Vidcouille a mal à la chatte quand elle fait la vidange bi-hebdomadaire de son mari. Non, mais je comprends ce qu'elle peut... Enfin, je comprends, même si je suis un homme. Ça pourrait être un sujet de discussion grâce à votre rencontre. C'est vrai qu'il y a ce côté-là quand même chez l'homme en général. Ça y est, c'est maintenant. Et puis, c'est plus facile pour l'homme. L'homme, bon, bah, voilà, une fois qu'il a éjaculé, je vous dirais, ça y est, c'est terminé. Et puis, lui, il peut retourner à ce qu'il a à faire. C'est sûr qu'il y a encore des hommes aujourd'hui qui ne comprennent pas ça. Mais il ne faut pas besoin d'être déconstruit ou je ne sais quoi pour comprendre ça, si vous voulez.
Ou je ne sais
clairement,
quoi.
Ouais.
Naïma, elle a 24 ans, plus jeune. Une jupe longue en jean, une veste beige et un casque vissé sur les oreilles. Avec de la musique à l'intérieur.
Corvée de sexe.
On reçoit une autrice qui a fait un livre qui s'appelle comme ça.
Alors, moi c'est un peu plus compliqué parce que moi c'est plutôt. Enfin, c'est plutôt l'homme qui en a moins envie que moi, si on va dire.
Ok.
Voilà. Je sais pas, moi. Il y a des personnes par exemple qui sont hyper sexuelles, qui sont super actives sexuellement, je veux dire, et qui ont vraiment besoin de ça. Après,
c'est quoi une... C'est combien de fois par jour ?
Peut-être 4. 5.
Eh bien, je vois que la Gen Z est en forme. Tout ça est bon pour le réarmement démographique, réagit à l'instant le chef de l'État. Tiens, je vous présente Cédric, 56 ans, chef d'entreprise, costume bleu sur chemise blanche, sans cravate. Que lui inspire le titre de votre livre ?
Corvée de sexe. Un peu provocateur.
Pourquoi ?
Parce que sexe et corvée, c'est un peu antinomique.
Et pourtant, je poursuis avec le sous-titre pour qu'ils comprennent bien.
Pourquoi les femmes se forcent encore ? Et parce que les hommes se forcent pas ?
Vous êtes déjà forcé ?
Ah oui, bien sûr.
Et vous pensez que votre partenaire, votre femme, s'est forcée aussi ?
Bon, sans doute, oui. Ça peut arriver.
Oui, mais si tout le monde se force, peut-être que ça peut se transformer en une intéressante discussion autour du consentement au sein d'un couple.
D'abord, est-ce qu'à chaque fois que vous faites l'amour, vous avez un consentement mutuel ? Est-ce que à chaque fois, vous dites « T'es bien d'accord qu'on va faire l'amour ce soir ?» Non. Ah. Ouais. Alors, au début, peut-être, mais au bout d'un moment.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça ?
Ça manque de romantisme.
Ouais. Ça peut être très romantique, le consentement. Est-ce que tu veux que je te touche là ? Oui.
Non, mais le consentement, c'est pas forcément des paroles.
Vous le voyez à quoi, vous ?
Je pense qu'il y a même si les gens se forcent, il y a un consentement.
Ça, c'est antinomique.
Ah non, parce qu'ils ont pas envie, donc ils se forcent. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas consentants quand même.
Et on sent que la frontière est compliquée. Je croise maintenant la route de Claire. Avec ses cheveux courts argentés, elle plisse les yeux qui laissent apparaître quelques rides.
Ouf, corvée de sexe. Oui, ça me parle. Dans le contexte du consentement, du sexe obligatoire, du devoir conjugal.
Et votre livre lui rappelle quelque chose.
Enfin, ça me fait toujours penser au sketch de... Comment ça s'appelle ? Virginie Hoc, qui est en train de faire l'amour et puis elle est en train de réfléchir à sa liste de courses, à son mari qui la défonce et elle est en train de dire « Attends, du poulet, des frites, machin, pas oublier d'acheter des œufs. » Ben voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où on n'est pas dans une disposition qui nous permet... de penser à autre chose ou d'évacuer certaines choses qui peuvent venir parasiter, il ne peut pas y avoir de désir, ça me paraît évident.
Pour Claire, le bilan est même assez catastrophique quand elle y pense.
Moi, je pense que la majorité des femmes se forcent. Parce qu'elles ont peur de perdre leur partenaire, elles veulent entretenir leur couple, voilà. Et... C'est triste et j'espère qu'on va arriver vers quelque chose où on ne sera plus dans ces problématiques-là avec les nouvelles générations.
Alors peut-être que la clé se trouve dans les nouvelles générations, mais dans la rue. Et au vu des réactions entre désir en baisse et devoir conjugal, il reste quand même une évidence, l'amour ne devrait jamais être une corvée. Sinon à ce compte-là, on met aussi la tendresse, la communication, le dialogue dans le planning sur le frigo, juste entre sortir les poubelles et vider la vaisselle.
Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, Quentin.
Je vis le
vous avez des gens pour faire ça chez vous.
Non.
Et tout le monde le sait, la France le sait. Maëlys Castet, je rappelle votre livre « Corvée de sexe » qui nous a intéressé aujourd'hui pour zoomer sur cette notion vraiment importante. Alors, si je reviens sur le micro-trottoir, il y a une phrase qui m'a marqué. Le consentement, par rapport à ce que disait l'un des intervenants, est-ce que le consentement peut s'exprimer sans parole ?
Il peut s'exprimer sans parole, mais moi je trouve qu'on aurait à gagner à rendre la parole sexy. Parce que sinon, on se retrouve à devoir deviner, décrypter, et les malentendus sont très fréquents.
Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes que j'ai eus au micro ? Est-ce qu'il y a du travail ? Est-ce que vous avez retenu des choses intéressantes ?
Ben, le Not All Men, il débarque tout le temps, tout le temps. C'est un peu fatigant, parce qu'en fait, on parle de statistiques, et on aimerait que les gens puissent entendre que quand il y a plus de 95% des agressions sexuelles qui sont perpétrées par des hommes, enfin je veux dire qu'il y a un problème avec la masculinité, les statistiques, enfin les faits sont accablants. Il n'est pas question de dire, encore une fois, que chaque homme individuellement est un monstre. On essaye de comprendre, d'un point de vue systémique, qu'est-ce qui produit ce genre de phénomène qui est quand même très triste. C'est émouvant ce qu'elle dit, la personne, là, Claire.
Mais par quoi devrait passer le consentement, du coup, dans un couple ? Il y a un consentement enthousiaste, entre guillemets ?
Bah, je pense qu'on voit quand les gens sont joyeux, non ? Quand, enfin, ça devrait être un truc qu'on fait que quand, enfin, un truc ludique et joyeux, en fait. Je pense qu'on voit quand quelqu'un a envie d'un truc, vraiment, genre, on devrait, c'est comme pour manger. En fait, on devrait manger que des trucs qui nous font vraiment envie et pas juste manger un truc qui nous emmerde juste pour attendre le dessert. Enfin, ça n'a...
Alors, Maëlys, c'est vous la professionnelle, mais je vous pose une question. Alors, peut-être que je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi que parfois, au sein d'un couple, évidemment, avec consentement et tout ça, est-ce qu'il ne faut pas se forcer un petit peu quand la journée, effectivement, était dure, que les enfants qu'il faut coucher, machin, etc. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas obligé de se forcer un petit peu, parce que forcément, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense de baiser, mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose de se forcer un peu au début de l'acte, évidemment, pour relancer une machine qui ensuite, on se dit, waouh, c'était super, on a bien fait, tu vois.
C'est un sujet sur lequel il y a des malentendus. Moi, je distingue se motiver. Et se forcer.
Okay.
C'est-à-dire que si, en fait, c'est un truc que je fais un peu comme aller à la piscine, parce que bon, j'ai toujours la flemme, mais quand j'y vais, en fait, je sais que ça me fait du bien et que ça laisse pas des séquelles sur ma santé. Ok, je comprends, effectivement, quand on est fatigué, ben, on sait que ça va nous faire du bien et on se dit, mais ce que je vois, moi, dans mes consultations, c'est pas du tout ça. C'est des personnes pour lesquelles ça fait un cercle vicieux et pour lesquelles ça produit de moins en moins d'envie.
À la limite, qui redoutent l'acte, qui n'y prennent plus de plaisir, même une fois que ça a démarré, il n'y a pas de...
Et surtout, qui sont dans un cycle, une pente d'évitement. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à arrêter. Je parle souvent du script où il faudrait aller de A jusqu'à Z. En gros, A, c'est les prélits qui ne durent pas forcément très longtemps. Puis gros plat principal, la pénétration et ensuite l'éjac, en gros. Et souvent, elles arrêtent de faire tout un tas de trucs sympas dont elles auraient peut-être envie.
Pour aller plus vite.
Pas pour aller plus vite, pour éviter que quoi que ce soit se passe. Parce que si elles mettent la main dans l'engrenage, elles savent, enfin en tout cas elles croient, et souvent parce que ça leur est arrivé, qu'il va falloir faire tout le kit. Et donc pour vous répondre, l'important ce serait d'assouplir la définition de ce que c'est que le sexe, en fait, et de l'élargir à intimité. Parce que sinon, effectivement, s'il n'y a qu'une manière de faire du sexe, c'est sûr que quand on a 3 enfants, un boulot, je sais pas quoi, ça devient vraiment... impensable de le soir de se dire, alors que si du bon sexe c'est aussi se mâchouiller le prépuce 3 secondes, se renifler machin, se tripoter les bourrelets, se serrer fort, se coller la peau, alors en fait c'est, enfin, peau à peau, ça devient cool, en fait on peut faire du sexe en étant crevé.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Liste de quelques-uns des derniers sujets de Zoom Zoom Zen. Chemsex, no sex, sex récession, Kamasutra senior, Pornhub, devoir conjugal et maintenant corvée de sexe. Je ne veux pas en tirer de conclusion hâtive, mais voilà une ligne éditoriale qui semble correspondre en tout point au tracas de notre rédacteur en chef Cyril, confronté aux affres de la cinquantaine. Car après une vie plutôt fertile, rappelons qu'entre sa famille parisienne et sa smala luberonnaise, il a plus d'enfants qu'il y a d'humoristes dans l'émission, celui dont la devise est « Je sème à tout vent » vient de se faire rappeler à l'ordre par son corps. Et oui, il va falloir. C'est son dos. Il va falloir ralentir la cadence, mon vieux. Un peu comme Manon, d'ailleurs, dont le body count coïncide curieusement avec l'annuaire des anciens du cours Florent. Elle aussi semble se détourner du chemin des sens pour des petits problèmes techniques.
Un prix des gaz.
Voilà. Seul Quentin, depuis sa découverte des choses de l'amour dans le Vito de Madame Catherine sur le parking du Jiffy d'Alençon, a toujours gardé une passion inébranlable pour.
La bouilla.
Quant à moi, précision suisse oblige, une fois par an, ce n'est pas une corvée, c'est un rendez-vous. Mais derrière cette notion de corvée de sexe se cache peut-être quelque chose de plus basique, la peur de l'accident, les amis. Un quiz dédié aux risques encourus pendant l'acte d'amour. Partons tout d'abord pour l'île de Wight, en 1947, où les urgences voient un matin débarquer un couple de jeunes mariés qui, en pleine lune de miel, sortent d'une ambulance, mais sur un seul brancard. Ça fait déjà rire Manon et c'est normal, puisque le docteur Brandon Musgrave, interne de garde, va délivrer un diagnostic rarissime en constatant que monsieur s'est brisé en madame, un coitus déchirus, expression latine évoquant la perte du frein sur la verge, que madame est décédée sur monsieur, un coitus morbidum, la fameuse épectase, ou que monsieur s'est coincé en madame, un pénis captivus, et là, même ceux qui n'ont pas fait latin comprendront.
C'est.
Pour vous, c'est.
Bah oui, parce que le frein, on peut se retirer, si elle est morte.
Le frein peut se retirer, c'est cassé, alors, mais on peut se retirer, elle est morte, on n'est pas coincé. Bonne réponse de Quentin, lui, et oui. En matière de bouillave, il s'y connaît. Le corps humain est décidément plein de surprises, pour le dire chastement, quand madame serre un peu trop fort, monsieur peut rester coincé, une sorte de vaginisme version MMA. La solution trouvée par le docteur Musgrave, un petit coup d'anesthésie pour relâcher l'étreinte et hop, l'étreinte effectivement se relâche et le membre viril peut enfin...
En ASMR quoi, on est
il
vraiment...
Il est 16h39.
Le membre viril peut enfin regagner sa liberté perdue, comme l'avait écrit Cyril Lacarrière dans un très beau mail à son ex-femme. Alors, un pénis captivus c'est effrayant, mais pas autant que ce qui est arrivé à Julio Macia Gonzalez, un jeune Mexicain pour qui, comme dirait Cyril, c'est terminé, sta terminado. D'après vous, sachant que la réponse n'est pas il a voulu prouver à Manon Mariani que les Mexicains aussi pouvaient être de bons amants et il n'a pas été à la hauteur. Comment est mort ce malheureux Julio Macias? En découvrant qu'il était le fils d'Enrico Macias.
Bonne blague.
Voilà, mais je l'ai un peu raté.
Bien.
Essayant une position un peu trop acrobatique avec sa petite amie ou en réagissant de manière un peu excessive à un suçon de sa petite amie.
C'est
B.
Pour vous, on peut mourir d'un suçon, Manon.
Mourir
non, mais il a réagi.
Il est mort, Julio.
A réagi excessivement, c'est ça que vous avez dit.
Bonne réponse. Réponse B. Hasta la vista, Julio. Petit ange parti trop tôt à cause du suçon de la mort, el chupetón de la muerte. Et comment un petit béco un peu appuyé peut provoquer un caillot, puis un accident vasculaire cérébral. Heureusement, tous les suçons ne mènent pas au cimetière. Cyril en est la preuve vivante, rescapé de la gourmandise de Sandrine Pichaillou lors de la boum des 5e B de Ponto Combo. Elle lui avait laissé une belle trace qu'il a été obligé de tatouer d'ailleurs. Une fois de plus.
Précoce.
Il y a pire que les suçons. Parmi les trois accidents coïtaux suivants, lequel ou lesquels se sont vraiment produits? Un Anglais s'est fracturé verticalement le pénis. Un Anglais est devenu aveugle après un orgasme. Ou un Anglais s'est fracturé, c'est toujours des Anglais. Un Anglais s'est fracturé un doigt en essayant d'enlever le soutien-gorge de sa partenaire.
Les trois.
B.
Vous pensez vraiment que c'est des bras cassés, les Anglais, Manon, visiblement?
Bah oui, ils ont pas l'air très doués.
Pas beaucoup de respect pour les roast beef. C'est une bonne réponse de Manon, les trois.
Il aurait pu l'inventer.
Vengeance, hurle Cyril en régie, dont l'atavisme anti-roast beef n'est jamais pris en défaut. Alors, petite explication quand même, cette notion de fracture du pénis, Quentin,
ça fait mal, hein.
En dépit de ce que vous pouvez croire, votre bûche n'a pas d'os, mais n'est qu'un simple corps caverneux qui peut néanmoins être victime de lésions traumatiques qu'on appelle, de manière un peu abusive, fracture, dans le sens de la largeur le plus fréquemment. Dans le sens de la hauteur, bravo champion. Les circonstances de l'accident demeurent obscures, mais la convalescence a quand même duré 6 mois. Revenons sur cet Anglais, car décidément les Anglais ne sont pas faits pour l'amour, devenu aveugle à cause d'un orgasme. D'après vous, est-ce à cause d'une pression sanguine trop importante dans la rétine? D'avoir confondu lubrifiant et Vicks Vaporub? Ou un truc très très sale, mais que tout le monde imagine très bien, et qu'à part Manon, personne n'ose formuler à l'antenne?
Visage juteux.
Non mais jamais Manon.
C'est
A. Mais non.
C'est.
Bon, écoute, A pour... Oui.
Réponse A, évidemment, Mavis le sait.
Pensez à quoi, Manon Mariani?
Mais rien.
Mais elle l'a déjà dit dans l'extrait qu'on a entendu.
Ça se dit pas à l'antenne.
Ça se dit pas.
16h42.
Voilà. Merveilleux corps humain. Un habitant de Southampton a perdu temporairement la vision suite à l'éclatement d'un vaisseau sanguin provoqué, d'après les médecins, par une accumulation de pression alors qu'il avait eu un orgasme. Un accident rare, certes, mais auquel, attention, sont plus exposés les hommes qui retiennent leur souffle avant, afin de retarder l'orgasme. Mais aventure qui n'arrivera jamais à Cyril, qui a pour politique de ne jamais se retenir. Il a juste l'élégance de prévenir. 5, 4, 3, 2, 1. Triomphe de l'amour. Et victoire de Manon Mariani.
Ah bon?
Mais comment c'est possible? Il y a 2-2.
Écoutez, c'est combien en régie, moi ? Vous savez, je ne compte pas les points.
J'ai répondu avant l'invité.
Cyril me dit deux, hein. Alors, y est.
C'est un livre essentiel qu'on vous présente aujourd'hui dans Zoom Zoom, Corvée de sexe, pourquoi les femmes se forcent encore, écrit par la sexologue Malice Castier, qui est avec nous. Malice, vous parlez dans votre livre de sexe sacrificiel. Terme est fort. Mais c'est ça, c'est un sacrifice.
C'est une forme de sacrifice, c'est-à-dire que les femmes choisissent de renoncer à leur bien-être, en tout cas de faire passer les besoins des autres avant les leurs. Donc c'est une forme de sacrifice.
Il y a aussi des injonctions quand on est une femme à toujours être désirable. On dit toujours, faut mettre du piment dans son couple, acheter des jolis sous-vêtements, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre la même chose aussi aux hommes ? Ce n'est pas qu'aux femmes de mettre du piment dans son couple, comme on l'entend.
Oui, c'est vrai que quand on a un homme en pyjama qui ne sait pas enlever les poils du nez ni des oreilles et qui a bu trop de bière et qui n'a pas fait de sport et qui ne sait pas laver, ça ne fait pas très envie.
Et qui espère que sa femme ait envie de lui aussi.
Oui, voilà, et qui part du principe que... Voilà. Mais par ailleurs, j'ai aussi envie de dire qu'on pourrait désirer quelqu'un pour autre chose que l'enveloppe. Et que cette charge sexuelle des femmes, elle est aussi chargée de stéréotypes sur ce que ça doit être la féminité, et qu'on peut tout à fait désirer... Enfin, moi, je trouve que c'est plus désirable quelqu'un qu'on admire, peu importe de quoi il a l'air, parce que quelqu'un qui nous inspire, on a envie de lui, quoi.
Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se retrouvent un peu dans ce que vous êtes en train de dire. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui serait un peu sous cette problématique dans son couple ? Comment, par quelle phrase, par quel mot on commence cette conversation ?
Quelle conversation ?
La confrontation à un problème dans le couple sur le fait de se forcer ou le fait de ne pas avoir envie.
Est-ce que tu serais d'accord pour en parler ? Déjà, demander à l'autre s'il serait d'accord. Parce qu'en fait, comme le sexe à deux, ça se fait à deux. Si on a un ou une partenaire, mais là, en l'occurrence, souvent un partenaire qui n'est pas disposé, qui considère que c'est l'autre le problème et que lui, il n'a rien à se reprocher, ça va être compliqué de commencer le travail.
Ouais. Un mot peut-être pour finir sur la masturbation. Est-ce que la masturbation, ça peut aider un couple ?
Moi, je trouve que la masturbation est une vraie alliée. Parce qu'en fait, ça permet de gérer tout un tas de besoins. Ça peut être, et moi, je suis OK avec le fait de dire besoin. Ça peut être le besoin de se désennuyer, de se déstresser, de se dédéprimer. Parce qu'en fait, depuis l'adolescence, même l'enfance parfois, on fait ça. On utilise la masturbation pour... et donc, simplement, c'est autre chose que le sexe à deux qui doit être un moment de partage avant tout. Et qui doit être ludique, enfin qui doit. Moi, je souhaite ça aux gens, que ce soit un moment ludique, joyeux. Et que sinon, ça n'ait pas lieu. Sinon, c'est une corvée pour tout le monde. Et pour les hommes aussi, en vrai, souvent.
Vous écoutez France Inter, il est 17h. Il n'est pas 17h, il est 16h45 seulement. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive ? La pièce jointe de Manon Mariani.
Une série, elle s'appelle Querer, une mini-série espagnole en 4 épisodes diffusée sur Arte cet été, qui m'a totalement bouleversée et retournée, un drame intime, judiciaire et familial. Querer, en espagnol, ça veut dire vouloir. Et ce mot va évidemment être au cœur de l'intrigue. On suit l'histoire de Mirène, une femme qui, après 30 ans de mariage, porte plainte contre son mari. Elle l'accuse de viols conjugaux répétés subis pendant toute leur vie commune. Une accusation qui bouleverse tout, évidemment, l'image du couple ensemble depuis des années, la cellule familiale avec deux fils obligés de choisir entre leur père et entre leur mère. Querer nous plonge dans le salon, dans le tribunal, dans les silences très lourds et elle interroge qu'est-ce que le consentement dans le mariage ? Comment la justice accueille une parole qui surgit après des décennies de silence ? Et surtout, comment une violence invisible, longtemps banalisée, peut détruire une vie derrière les apparences d'un couple tranquille ? Même ses propres fils ont du mal à la croire, eux qui n'ont jamais vu de coups, jamais vu leur mère malheureuse, jamais leur père violent. Mirène doit se battre pour elle, mais aussi contre le regard des autres qui la jugent sans cesse. Querer frappe par sa sobriété, il n'y a pas de pathos inutile, pas de surenchère, une mise en scène au plus près des corps, des regards, des mots. On est vraiment transporté avec le personnage de Mirène, de sa plainte au procès, à l'après, le tout de manière assez froide. Querer ne provoque pas forcément l'empathie, mais elle nous permet de comprendre les mécanismes d'un acte trop souvent banalisé et surtout pas pris au sérieux, cette zone grise du couple. La série a remporté le Grand Prix à Sérimania l'année dernière, cette année pardon, elle a aussi été couronnée au Prix Féroz en Espagne. Oui. En tout cas, vous l'avez compris, Querer se regarde pas seulement comme une fiction, mais comme un miroir de notre société, parce que le viol conjugal est longtemps resté un impensé, longtemps resté un tabou, il est encore. Querer rappelle qu'il est aujourd'hui au cœur des débats et qu'il mérite d'être montré, compris et surtout jugé.
Merci Manon. Quand j'aurai fini Empathie, c'est-à-dire à l'horizon 2027, oui, je passerai à cette série.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Bande d'ingrats, je vous donne pas 2 mois pour mettre la clé sous la porte. Les mots violents de Pierre Courade résonnent encore aux oreilles des patrons du Cornichon. Cet estaminé de l'Est parisien dont Pierre était un habitué jusqu'à ce samedi fatal, où on lui a refusé une place en terrasse car toutes les tables étaient réservées. Alors même que selon le théorème de Courade, on ne peut pas réserver de table en terrasse.
Bah
bref, c'est un homme très contrarié qui se présente à nous aujourd'hui. Mais Pierre, vous nous résumez quand même tout ce qu'on s'est dit sur la notion de corvée de sexe en 1 minute chrono.
Ouais, et en plus on n'y avait même pas croisé Théo Delobadère. En tout cas aujourd'hui, dans l'émission, on a parlé de la corvée de sexe, un terme mis en exergue par notre invitée, la sexologue Maëlys Castet, en couverture de son livre. Une expression qui résume le problème récurrent des femmes qui viennent la voir. Elles se sentent obligées d'avoir des rapports sexuels avec leur compagnon ou leur mari. Elles ne viennent pas pour demander des conseils à notre invitée pour parler à leur conjoint et leur expliquer qu'elles n'ont pas toujours envie. Elles viennent pour retrouver de la libido. Elles estiment que le problème vient d'elles et qu'elles doivent satisfaire les pulsions de leur mari et que donc elles doivent être prêtes à tout moment. Ça devient une corvée et ce n'est pas normal. Maëlys Castet nous a en effet expliqué que même le consentement ne suffit pas, il faut qu'il soit enthousiasmant. Elle fait néanmoins le distinguo entre se motiver et se forcer. Faire du sexe sans envie, c'est le poids de la tradition patriarcale qui persiste. 57% des femmes déclarent aujourd'hui encore qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir eu envie.
Merci Pierre. Conclusion Maëlys, les femmes sont les dindons de la farce, c'est votre conviction profonde.
C'est ça.
On espère que ça va quand même changer. À côté de vous, j'allais dire un sacré bout de femme, mais non, c'est un sacré bout d'homme qui nous rend visite aujourd'hui. Bienvenue Sexo Vince, sexologue et coach en développement personnel.
Bonjour Mathieu, alors d'abord c'est Sexo Vince, pas Vince, voilà. Je vous ai appelé Mathieu, je vous ai pas appelé sale gauchiste. C'est pareil, le respect c'est dans les deux sens. D'ailleurs en parlant de sens, je pense que votre invité Miss Castel a perdu complètement en parlant de sexe comme d'une corvée.
Alors c'est Maëlys Castet.
Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire hein, quand même, soyez pas dans l'agressivité dès le début comme ça Mathieu. On n'est pas en MMA, on est entre gens civilisés. Donc voilà, si vous voulez bien me laisser m'introduire, moi je suis sexologue sur TikTok, hein, j'ai 507K, je suis coach en séduction sur YouTube, je répondrai à votre mail d'ailleurs plus tard à ce propos. Et je viens également vous présenter mon premier livre qui vient de sortir, Les femmes, on a beau les démonter, on sait jamais comment ça fonctionne. Voilà, ça sort demain aux éditions France Inter, c'est le tome 1. Ma vérité sur les femmes, voilà, c'est un diptyque, c'est pas un diptyque, voilà, pas de jeu de mots, diptyque pour les femmes, ça veut dire qu'il y en a deux, voilà, c'est comme les sexes, c'est exactement la même chose.
Vous avez lu le livre de notre invité Maëlys Castet ?
Ah, vous savez Mathieu, quand on écrit des livres, on n'a pas le temps de lire. Surtout quand on sauve les hommes des femmes qui veulent les priver de leurs droits fondamentaux, hein, parce que bon, là on a de la chance, vous avez Manon, mais il y en a qui sont malines. Par exemple, Maïs à côté de moi. D'ailleurs, ça me fait penser, Quentin, pour répondre à votre message sur mon Insta, vous qui voulez prendre des pecs. Maïs, c'est super protéiné, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, donc pour répondre à votre question, Mathieu, non, je n'ai pas lu le livre de ma voisine, mais je vais vous dire pourquoi il n'est pas bien. C'est sûrement parce qu'il est bien écrit, sûrement, parce que c'est dit avec des mots de femme, hein, bien sûr, joliment naïf, bien sûr, mais ce n'est pas bien de déshonorer le sexe en parlant de cela comme d'une corvée, parce qu'après, qu'est-ce qu'elles vont se dire, les femmes hein, qui n'ont pas envie de s'accoupler en vous entendant avec votre bouquin. Moi, je vais vous dire ce qu'elles vont penser. Elles vont être démotivées à cause de vous, hein, par votre faute, évidemment, en se disant « Oh là là, le sexe, ça va me fatiguer », alors que c'est complètement débile. Tout le monde le sait, c'est l'homme qui fait tout, puisque c'est nous qui pénétrons. Et puis, pardon de le rappeler, mais c'est pas comme si on demandait aux femmes d'aimer ça. Donc,
quand même, vous savez, Sexo Vince, vous parlez des hommes, mais les femmes font aussi l'amour entre elles.
Ouais, d'accord. Et elles font comment sans pénis? Non, mais allez. Cyril, allez, un peu de sérieux. Non, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Hein, ouais, vous savez, j'aime les femmes, vraiment, j'adore les femmes. Enfin, sauf celles qui répondent pas aux messages, qui laissent des vues. C'est pas compliqué de répondre à un merci quand je te dis t'es belle. Sale pute. Pardon, excusez-moi.
Pardon, ça vous a échappé.
Non, non, c'est une grossièreté qui m'a. J'ai failli en dire une. Non, non, je veux dire, pardon, ça n'a rien à voir. Je reconnais mes torts. Contrairement à ma chère voisine, je finirai là-dessus, Madame Maïs. J'ai bien dit cette fois, ça va? Vous voyez, alors, en fait, vous voulez dire quoi avec votre bouquin exactement? Que les femmes qui sont en couple, elles se forcent parfois, qu'elles font l'amour alors qu'elles n'ont pas envie? Non mais c'est quoi ces ignominies? La femme qui se force, elle n'a pas envie, on ne va pas la forcer. Alors oui, par contre, bien sûr, nous on va faire la gueule, on va râler, on va lui faire des remarques en disant c'est quoi ton problème chérie? On va le dire devant nos amis en disant c'est quoi ton problème chérie? On va la toucher plusieurs fois par jour, par semaine, on va vérifier qu'elle n'a pas changé d'avis. Mais jamais, non, non, ça on la forcera pas, non, non. Ouais. Après, c'est toujours dommage de se retrouver à la rue. Voilà. Moi, je dis ça, c'est pour elle. Hein. C'est uniquement. Voilà.
Ouais,
c'est...
En tout cas, merci, Sexodine. Vous êtes venu vraiment,
vraiment
merci.
Merci à vous, de Mathieu, de m'avoir reçu. Merci à ma chère voisine. J'ai adoré ce débat, en tout cas. Et puis, je suis content de voir que maintenant, on s'entend, qu'on est raccord. J'aurais pas besoin de vous mettre des mauvaises critiques, des critiques haineuses sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Lisa Perriot, en vrai, cachée sous cette barbe. Très, très bien. Ce book, très, très réaliste, plus réaliste que celui que Quentin avait tenté il y a quelques temps.
J'ai pas tenté un book.
Si, si, vous l'avez tenté.
Je me suis trompé de sabot. Je me suis trompé de sabot. Et c'est
vous l'avez pas assumé. On n'y croit pas à cette histoire.
Comme Manuel Valls.
Très bel exemple, très beau souvenir. En tout cas, merci Lisa Perriot. Sur scène, tous les mercredis, à la Nouvelle Scène, dans votre spectacle C'est compliqué, je t'expliquerai. Tu m'as toujours pas expliqué, mais je désespère pas. En tournée, surtout dans toute la France.
Exactement.
Après ça.
Exactement. Merci.
Merci à vous, merci Maëlys Cassé de nous avoir éclairé sur ce problème de la corvée de sexe. Le conseil qu'on donne à quelqu'un qui se force à avoir des rapports, le premier conseil que vous donnez quand vous recevez une femme que vous comprenez qu'elle elle croit qu'elle a un problème de libido alors que juste elle a pas envie, elle a le droit.
Ah bah, faire venir son mec.
Faire venir son mec et ensuite ça finit sur une thérapie à deux.
C'est ça. Zoom Zoom Zen.